Patrice Connard.
Radio J.
Et dans Belle et Zen, le grand plaisir de rencontrer Adélia de Machy. Bonjour Adélia.
Bonjour Léa.
Alors vous êtes une personnalité hors du commun. Alors vous êtes de formation architecte, décoratrice, mais vous allez nous parler de ce que vous avez créé, mais vous avez un parcours derrière vous qui est hors du commun. Est-ce qu'en quelques lignes comme ça, vous pouvez nous raconter votre vie, si j'ose dire?
Je sais pas si je dis très très longue non plus. Mais...
Vous êtes toute jeune.
Oui, c'est ça. Enfin, 38 ans.
Bon, c'est jeune. Ouais, on va dire que c'est jeune.
C'est le bon âge. Voilà. On profite. En fait, j'ai fait des études comme tout le monde d'université à un âge où on n'était pas forcément très très averti de ce qui se passait, de ce qui allait. Voilà, moi, j'étais pas très dans la projection, j'étais plutôt une rêveuse.
Oui.
Je continue
vous
de l'être.
Vous étiez dans le présent.
Ouais, 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 c'est ça. Voilà, mais présent, mais un peu,
un peu
ouais. Et en fait, et après, j'ai quand même fait 10 ans à peu près dans la publicité en tant que post-productrice et productrice. Et puis après, j'ai eu un petit accident de la route, un truc qui arrive à peu près à tout le monde. Hein, on est dans Paris. Ouais. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Donc j'ai tout mis à zéro.
Parce que vous avez vraiment eu peur.
J'ai eu un petit choc. J'ai pas eu peur parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de réaliser quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais je me suis dit que j'avais vraiment qu'une seule vie et que c'était le moment de prendre la balle au bon et que c'était pas, j'allais pas vivre demain. C'était, fallait faire ce que, enfin, vraiment j'avais envie de faire ce que je voulais. Mm-hmm. C'était pas la peine d'aller faire des sacrifices, de pas m'épanouir. J'avais vraiment réfléchi à ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire
de ma vie.
Globalement,
maintenant qu'on m'a donné une chance,
ouais, c'est ça. Donc globalement, je savais que ce que je faisais à ce moment-là ne me plaisait pas, me plaisait, mais c'était pas, je m'épanouissais pas du tout, j'apprenais plus rien. Mm-hmm. C'était presque un truc un peu automatique, quoi.
Robotique.
Ouais, robotique.
Et ça, vous détestiez. Et vous aviez envie de vivre.
Ouais, exactement.
Alors, qu'est-ce qui vous faisait vivre? Quelle était l'idée qui vous faisait vivre à l'époque?
Je me suis assise sur un canapé, puis j'ai commencé à dessiner. Et j'ai recommencé en fait à dessiner. Ouais. Quand j'étais petite, je dessinais beaucoup, je faisais des gribouillages évidemment comme les petits contre les voilà. J'étais pas une grande artiste, mais enfin j'ai dessiné quand même après pas mal. J'ai même fait des petits plans quand j'étais petite. Ah. Je voyais mon père dessiner ses plans lui-même, donc je faisais
donc,
la même chose.
Fille de grand architecte.
Fille d'architecte, pour être décorateur accessoirement.
Oui.
Effectivement, je le voyais gribouiller, donc je voulais faire comme papa. Je voulais faire le même truc, donc je faisais mon plan, mon petit. Voilà, ça c'est papa, ça va être mon appartement à moi. J'imaginais des trucs complètement fantaisistes. Oui. Et même petite, j'avais pas grandi à Paris. J'ai eu la chance d'avoir grandi à l'étranger. Donc voilà, on avait une plage devant la maison où c'était plutôt sympathique. Et en fait, je faisais des châteaux de sable, mais avec des espèces de dégueulis de trucs, de sable. Enfin, j'ornais mes trucs partout, quoi.
C'était amusant. Mais c'était des maisons, hein.
C'était vraiment des maisons, des petites, même mes cabanes. J'avais vraiment à construire un côté canapé. Il y avait vraiment une logique dans l'aménagement intérieur.
Mmh. Bah oui, parce que bon, bah vous aviez ça aussi au quotidien quand vous voyez votre père. Et là, vous vous dites, je vais devenir architecte.
Ah oui, c'est ce que je me suis dit que c'était la seule voie qui m'était vraiment qui tombait sous mes yeux, quoi. Je me suis renseignée sur les formations. J'ai été voir deux écoles qui sont le Studio des Arts Déco. Et ensuite l'école Boulle.
La prestigieuse école Boulle.
Mais pour moi c'était, en fait, vous voyez, au début Camando, parce qu'on avait vraiment beaucoup d'amis sortaient de là, et notamment des amis architectes. Mm-hmm. Pour n'en citer qu'un, Charles Zana, qui m'avait gentiment aiguillé vers Camando. Oui. Je lui donne toujours des cours là-bas, lui. Mm-hmm. Et au final, j'ai en fait, Camando proposait pas de formation, enfin comme je recherchais. Mm-hmm. Et du reste, pour quelqu'un qui avait passé son bac en 2002 en l'occurrence. Hein. Ouais. Donc j'ai été voir Boulle et en fait via un organisme qui s'appelle le Greta, ils font des formations effectivement en architecture d'intérieur ou en métier d'art en tout cas, qui sont vraiment excellentes et surtout on bénéficie du corps professoral de l'école Boulle.
Vous faites rêver des jeunes qui nous écoutent c'est prestigieux.
C'est vraiment des professeurs hors normes.
Ah oui.
Mais moi, pendant c'était qu'un et qui a fait vraiment et qui est même formé, c'est drôle, une collaboratrice de mon père qui n'a pas du tout le même âge que moi, clairement.
Oui.
Elle était à l'époque à Camando Et elle a eu un professeur qui s'appelait Dominique Chevalier. Puis moi, j'étais très liée avec lui, donc il me donnait parfois des cours à la maison. Et un jour, on tombe sur mon père et elle, qui étaient sur notre chemin. Et on discute, je les présente, et elle me dit, mais c'est marrant, moi j'ai connu un Dominique Chevalier qui était à Camando. Et je dis, bah, c'était moi. Mec, elle doit avoir 100 ans. J'en sais rien, mais c'est extraordinaire d'avoir une espèce de concours de circonstances pareilles, quand même.
Oui, oui. Et à partir de là, vous dites, bon, bah, je vais devenir décoratrice. Et c'est ce que vous avez fait.
Ouais.
Et vous avez créé depuis lors. Qu'est-ce que vous avez créé? Votre style.
Bon, j'ai pas de style. C'est un mot que je trouve assez marrant, mais j'ai pas de style. J'ai une philosophie. Pour moi, c'est un métier qui d'abord couvre beaucoup de domaines, on va dire. Il y a un peu beaucoup quand même de psychologie, il y a un peu de recherche, il faut s'intéresser à la technique, mais sans s'intéresser à la technique, ça veut dire qu'on n'est pas un technicien. Faut le savoir. Enfin, en tout cas, en tant qu'architecte d'intérieur, on peut pas se prendre pour un électricien, on peut pas se prendre non plus pour un plombier.
Ça, besoin des autres.
On a besoin. C'est là le premier truc qui, pour moi, dans ce métier, fait vraiment l'intelligence, en tout cas, d'un architecte d'intérieur. Si on commence à croire qu'on a la capacité de remplacer quelqu'un dont c'est vraiment le métier depuis des années, mais on se plante.
En fait, c'est la synergie de plusieurs métiers, et vous êtes au cœur finalement. Vous avez l'idée de ce que vous voulez réaliser, et vous servez.
De ce qu'ils ont apporté, savoir-faire, même de leur savoir tout court, de leurs idées plus.
Vous nous dites que c'est une philosophie. Alors, c'est quoi le cœur de votre philosophie? C'est quoi une belle décoration d'intérieur, par exemple?
Alors, une belle décoration d'intérieur, c'est une décoration où on sent l'âme de la personne qui y vit. Ouais. D'abord. Donc, et je vais répéter probablement tout ce qu'il y a autour du champ lexical du vivant. Ça, c'est possible. Mais ça doit vivre, ça doit respirer. Il doit y avoir un côté, d'abord personnel. C'est intime. On se raconte. En tout cas, on se montre sans pudeur, sans rien. C'est soi, voilà, ses voyages, ses sensibilités, ce qui nous intéresse, les bouquins qu'on a lus, les photos, etc.
Donc, voilà. Vous, Adélia de Machy, quand on vient vous voir pour refaire un intérieur, que ce soit un appartement privé ou professionnel, vous parlez avec la personne.
Je parle, c'est évident. J'ai le rendez-vous, je pense, parce que on fait un rendez-vous, on se rencontre, je suis antinomique avec les réseaux sociaux là. Pour le coup,
il y a une phase
qui est extrêmement concrète. On passe 2 heures ensemble, peut-être même plus. Moi, ça m'est arrivé de faire des rendez-vous. J'ai eu des rendez-vous qui ont duré presque 10 heures, je crois.
Je vous ai mis 20 ans parce que je m'attends à tout avec vous. Et donc, vous voyez, vous rencontrez les gens d'après ce que vous ressentez de la personne, les questions, les réponses à vos questions.
Oui, exactement. Ce que la personne... pourquoi elle veut refaire ou faire un appartement? Quelle est l'idée première? Est-ce qu'il y a eu d'abord un besoin d'achat d'appartement? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait un appartement avant, ou elle, ou il, ou... on fait un appartement et ça s'est pas très très bien passé. Enfin, il y a toujours une raison, il y a toujours un truc.
Et puis donc, le mode de vie aussi.
Oui, bien
sûr. Est-ce qu'on est souvent à la maison? Comment on bouge aussi dans l'espace?
Et imaginez aussi comment va se passer les prochaines années. Parce que quand on achète un appartement, il y a un renouveau. Quand on veut refaire un appartement, il y a une envie de renouveau. Donc il y a forcément un projet de changement. Et ça peut être un changement qui soit aussi un changement qui concerne aussi l'activité, ou en tout cas comment on vit chez soi.
Et vous avez une conception un peu particulière sur le travail et la maison, hein.
Ouais, je fais pas trop le distinguo. J'avoue que j'ai eu un projet assez très intéressant de bureaux à faire, où les bureaux étaient à Neuilly. On avait à peu près 700 mètres carrés de bureaux à faire, y compris terrasse. Et le patron de cette entreprise s'appelle Statera. M'a dit, écoute, je cherche une architecte qui fait énormément de résidentiel, bon, qui fait du bureau aussi, mais qui soit à même de pouvoir imaginer des bureaux où on se sente comme chez soi. Je suis bon, ok. Challenge.
Pas bête, challenge. Le chef d'entreprise.
C'est pas bête.
On
très, très,
pourquoi.
Très, très malin, ouais. Très malin, et j'ai adoré ce côté.
Oui.
Vraiment, où on a poussé le côté, parce qu'en fait, il y avait eu quand même toute cette mode du bureau au luxe, un peu, les You First chez Jessina, qui était ce projet de réfection des bureaux pour en faire quelque chose d'assez upgrade. Là, j'ai trouvé que l'idée était vraiment plus poussé.
C'était avant le Covid ou après?
C'était après le Covid. Le
Covid
a chamboulé complètement les codes. Les premiers, je pense que, les espaces de coworking. d'abord, avant même le Covid, ou quand même oui. déjà changé pas mal la donne. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, pour mon interprétation, effectivement, ils ont fait quand même, bah, pour n'en citer qu'un, c'est WeWork, qui étaient les pionniers là-dessus en France, où ils ont envoyé des bureaux absolument sidérants de, mm-hmm. de finition. Je parle seulement, non seulement des habillages, mais aussi de la technologie qu'ils avaient apportée. Tous les bureaux étaient extrêmement bien conçus. Mmh. Il y avait tout à disposition.
Oui, il faut que ce soit ergonomique, parce qu'il faut penser aussi au dos des
gens. On pense à l'ergonomie, il y a souvent des formes qui sont pas très jolies. Je pense aux fauteuils de bureau qui sont pas non plus hyper sexes. Quand on voit le dossier de loin, on se dit ah oui, ça c'est pas sexy. Le ton est donné.
Mais on est bien assis peut-être.
Mais ergonomie ne veut pas dire moche. C'est comme, par exemple, quand on parle d'éco-responsabilité, on se dit, éco-responsabilité, ça va coûter un, cher, et deux, ça va pas forcément être très sexe. Si, ça peut l'être.
Ça peut l'être. En tout cas, c'est votre travail, vous,
ben, c'est mon travail.
Adélia, vous rendez finalement l'utile beau. J'imagine que c'est ça.
En tout cas, je fais des recherches.
L'objectif, c'est ça.
Ouais, l'objectif, c'est ça. Mmh. L'objectif, c'est ça.
Et puis, le Covid a aussi changé le fait que parfois, chez soi, c'est aussi un espace de travail.
Ça peut l'être. On parle souvent du Covid comme étant un espace de qui a un peu poussé la donne là-dessus, mais je pense qu'on a tous un peu, même si c'est pas forcément top, on a tous rapporté un peu de boulot chez soi. Ça nous arrive d'ouvrir l'ordinateur, taper un truc. Au final, c'est un geste naturel. Ça s'est pas passé parce que il y a eu effectivement cette espèce de cette maladie qui est arrivée et qui nous a tous poussés à un peu modifier nos modes de travail,
De vie aussi.
De vie, voilà. Mais alors moi, par exemple, je faire un bureau chez soi en soi, c'est pas mon objet. Enfin, j'aurais du mal à le faire, à part si vraiment ça s'y prête. Mm-hmm. Mais par contre, j'aurais pensé ou je propose en tout cas à mes clients de faire un espace où on peut éventuellement transformer cet espace en bureau. Mais c'est pas de prime abord ce qu'on va avoir. Je vais pas gâcher une pièce pour en faire un bureau pour autant.
Là, dans ce cas-là, il faut avoir beaucoup d'imagination. Il y a des choses extraordinaires qui se font aujourd'hui et aussi de l'inventivité dans les meubles qui se transforment. Et dans un petit espace, on peut avoir à la fois cabinet de toilettes, chambre, armoire.
Tout à fait.
C'est fou.
Que ce soit les matériaux, que ce soit le meuble en lui-même. Il n'y a pas besoin forcément de faire du sur-mesure pour ça. Mm-hmm. Il y a des solutions qui existent. Donc, c'est des modulables. Il y a énormément de fournisseurs aujourd'hui qui font du modulable. Mm-hmm. Donc, ça, c'est très bien.
Alors, Adélia, vous, donc, qui êtes décoratrice d'intérieur, et tout à l'heure, vous m'avez reprise sur le terme style.
Ah, oui.
Est-ce que ça veut dire que vous, le mot mode aussi, ça vous dérange? Est-ce que les tendances, le terme tendance, ça vous dérange aussi?
Ah oui, ça me gonfle.
Expliquez pourquoi.
Parce que je pense que la tendance, c'est quelque chose qui passe. Donc, si c'est une tendance, c'est que nécessairement, il y a un truc qui tient pas la route. Alors, pour moi, c'est vraiment une question. Je pense que l'architecture d'intérieur, c'est d'abord une question de logique et de sensibilité. Point. C'est que ça. On parle de style parce que les gens aiment bien catégoriser, identifier, étiqueter, etc. Ça rassure. Moi, j'ai pas de style, je m'en fous.
Est-ce que ça veut dire que vous avez une vision sur le long terme?
Ouais, exactement. En fait, et d'ailleurs, là, pour être très très académique.
Oui.
La décoration est un métier qui normalement devait, quand on faisait un projet de décoration, devait durer au moins, ce projet durait 2 générations, enfin en tout cas 50 ans. Voilà. C'est 50 ans de, ça devait pas se démoder pendant 50 ans. 50 ans, c'est très long. Mm-hmm. Très, 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 très long. Et en fait, c'est comme ça qu'on devait concevoir la décoration à l'époque. Mm-hmm. Alors, pourquoi ça a changé? Parce que d'abord, les matériaux ont pas la même durée de vie. Ça, c'est une chose. Mm-hmm. Effectivement, on est sous l'effet de la mode, donc pourquoi pas. Moi, je pense que, on peut éviter l'effet de mode en se disant, tiens, qu'est-ce que j'ai chez moi que j'aime bien? Et comment je peux reconfigurer tout ça? Mm-hmm. Comment je peux refaire une sauce avec tout ça? Mm-hmm. Et c'est possible de le faire. C'est comme quand vous avez un placard avec des épices, vous n'avez pas acheté vos épices parce que vous avez trouvé une nouvelle épice. C'est complètement con. Donc vous prenez le truc et vous faites un curry, par exemple.
Et d'ailleurs, c'est tellement vrai ce que vous dites, c'est que bien souvent, il y a un retour, parce qu'on parle de tendance et de mode, mais par exemple, je pense aux années 70, parce que j'adore les années 70.
Ça revient à la mode. Regardez, il y a un restaurant Bunny, Paris Society, qui a ouvert, c'est complètement thématique.
Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui a été créé aussi pour le long terme, même s'il y a eu un renouvellement. différent. En fait, il y a une multiplicité de l'imagination, mais ça démode pas ce qui a été fait avant, peut-être.
Non, du tout. Ah. Absolument pas. Au contraire, ça le fait revivre. J'ai grandi avec, j'étais très bien entourée avec un artiste, notamment César, qui m'avait appris pas mal de choses.
Il y a pire. Ouais, oui, comme entourage.
J'avoue. Bon, il m'a appris en outre, il m'a appris effectivement à faire de la cuisine, enfin, à cuisiner un petit peu.
Oui.
Avec des choses très, 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 très simples, très élémentaires. Et c'est pareil avec ce que lui faisait, sa démarche, c'était de redonner une vie à ce qui avait déjà existé, à ce qui avait déjà été utilisé, à ce qui avait été presque qu'on avait laissé à l'abandon.
Oui.
Ben, j'ai adopté un peu cette démarche-là.
Merci Adélia de Machy de nous avoir parlé si bien de votre philosophie. Adélia de Machy, donc architecte d'intérieur, on va vous retrouver sur le site adeliademachy.com. Vous êtes très élégante aujourd'hui avec une très belle chemise blanche.
Ah, c'est
est-ce
une amie qui l'a fait en plus.
Et est-ce à dire que chez vous tout est blanc?
Ah non, alors tout était blanc. Non, mais par contre, effectivement, faut pas avoir peur d'un mur blanc. Ça, c'est vrai. Je le dis, je le répète.
Vous parlez à me convaincue.
Ah ouais. Mais vous pouvez habiller. Mais moi, les toilettes, c'est un truc où j'adore m'amuser parce que j'aime bien faire des toilettes où par exemple, vous mettez des séries de photos de vous petits, les copains, je sais pas quoi.
Enfin, et on s'amuse à regarder.
Mais bien sûr.
Eh oui, parce qu'on y passe du temps.
Mais oui, ouais.
Merci, Adélia de Machy.
Merci.
À très bientôt sur l'antenne. Au revoir.